Et oui, on fête les 100 ans de la radio cette semaine. À cette occasion, je reçois Antoine Tabar, qui est le secrétaire général du comité territorial de l'audiovisuel. C'est le CSA en région. Ensemble, nous allons revenir sur les grandes dates qui ont fait de la radio le média préféré des Français. On va découvrir la richesse du panorama radiophonique de la région. Regardez l'avenir, bien sûr, puisque vous le savez, si on ne fait plus la radio de la même manière qu'il y a 100 ans, on ne l'écoute plus de la même façon non plus. Bref, on lui fait sa fête à cette vieille dame. Bonjour Antoine Tabar.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Un grand merci d'être en studio ce matin avec nous. Je fais un merci appuyé car je sais que vous êtes toutes à la préparation d'une journée dédiée à la radio. Ça se passe demain à Toulouse. C'est une journée de table ronde à laquelle tout le monde est invité. Vous qui nous écoutez, le programme est visible sur le site de la fête de la radio. Cette journée, ça se passe à la DRAC à Toulouse et rue de la Dalbade. Serge Recourt, on le disait, était l'un de vos invités. Hein.
Tout à fait. Il sera là pour représenter la présidente Carole Delga et donc le conseil régional et la région Occitanie qui évidemment est une personnalité importante pour nous.
Alors Antoine Tabar, on va essayer d'abord de voir d'où vous parlez hein, et comprendre. On va en profiter de votre présence avant de fêter, de lancer les festivités, comprendre le rôle du CTA. C'est quoi vos principales missions ?
Alors nos principales missions, c'est d'exercer en réalité les missions du CSA pour les médias locaux, c'est-à-dire radio locale et télévision locale. Ces missions du CSA, c'est globalement une mission de régulation. Alors derrière régulation, il y a beaucoup de réalités différentes.
Contrôle, c'est un joli mot pour dire contrôle ?
Alors non, c'est pas seulement un joli mot, c'est un mot beaucoup plus large que contrôle, parce que le contrôle est effectivement une partie de nos missions, certainement la plus médiatisée de toutes, mais le CSA n'a pas qu'une mission de contrôle, il a avant tout une mission de régulation au sens large, c'est-à-dire d'abord autoriser les médias et les médias sur les fréquences hertziennes à émettre. Il faut rappeler que les radios qui émettent aujourd'hui sur les fréquences hertziennes ont reçu une autorisation du CSA pour ça et que cette autorisation, elle est délivrée après appel à candidature et après examen de projet. Donc ça, c'est peut-être la mission primordiale, la mission fondamentale du CSA. Après, effectivement, à partir du moment où ces médias existent, on a une mission au quotidien de suivi de leur activité, c'est-à-dire d'accompagnement déjà, de compréhension de l'écosystème, de compréhension notamment des enjeux économiques avec eux. Et c'est aussi, évidemment, quand le besoin s'en fait sentir, une mission de contrôle pour vérifier que les engagements que ces radios, que ces télévisions prennent, que ce soit vis-à-vis de la loi ou vis-à-vis des engagements plus spécifiques qu'elles ont vis-à-vis du CSA, sont bien respectés. Ça peut tout à fait nous arriver.
Et oui, on pense souvent CSA, dérapage à la télévision. On va saisir le CSA.
Ça n'est pas seulement ça.
Je vais t'attacher de me tenir bien sage puisque j'ai face à moi finalement le grand contrôleur de la radio. Alors, plus sérieusement, Antoine Tabar, c'est quoi le panorama radiophonique de la région Occitanie? C'est le périmètre de votre comité territorial.
Tout à fait. Alors les CTA, effectivement, c'est important de le rappeler. Je rappellerai quand même que le CSA est la seule autorité publique aujourd'hui qui a comme ça des décrochages locaux, d'une certaine manière, pour prendre une expression de radio, décrochages locaux dans le territoire. Donc ce qui lui donne une meilleure compréhension des enjeux locaux et notamment des médias locaux. Donc notre ressort, c'est effectivement la région Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon, ex-Midi-Pyrénées. Donc le plus gros ressort territorial des comités territoriaux, au moins en nombre de départements et en nombre de fréquences aussi. Aujourd'hui, le paysage, c'est environ une centaine de radios associatives sur cette région Occitanie, c'est-à-dire de radios associatives qui émettent dans la région, qui ont au moins une fréquence dans la région. C'est ensuite 130 environ radios en tout, donc une trentaine, 30-40 radios commerciales, donc entre les catégories B, radios locales, et les catégories C, qui sont les décrochages locaux des grands réseaux nationaux tels qu'on peut les connaître dans les grandes villes.
Alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a différentes catégories qu'on va peut-être pas rentrer dans le détail auprès de nos auditeurs, mais il y a cette grosse catégorie qui sont les radios associatives, cadre dans lequel rentre Radio Présence, et puis il y a ces radios nationales avec leur décrochage ici, et puis les radios commerciales. 100 radios associatives sur 130 en tout, ça fait une grosse part de radios associatives.
Alors il y a une grosse part, oui, tout à fait. Alors c'est 130 radios avec des emprises locales. C'est
bien
évidemment
sûr,
sans compter les grandes radios nationales qu'on peut recevoir un petit peu partout. Je ne compte pas là-dedans le service public et je ne compte pas les grands réseaux nationaux. Mais effectivement, sur les radios locales sont essentiellement des radios associatives, au moins en nombre d'opérateurs. Après, elles ont souvent des petites emprises locales. Elles ne sont souvent pas reçues sur beaucoup de territoires, sur beaucoup de fréquences. Donc, mais en nombre, elles sont effectivement très, très majoritaires.
Mmh. Est-ce qu'il y a une spécificité à la région en termes de radio? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, vous l'avez dit, beaucoup de radios associatives? Est-ce qu'il y a un écho particulier aux langues régionales, que sais-je?
Oui, alors c'est effectivement deux points notables. Déjà, la part des radios associatives, ce qui est très très importante en Occitanie par rapport à d'autres régions. On note d'ailleurs que les villes de Toulouse-Montpellier, assez fréquemment, les radios associatives sont moins représentées dans les grandes agglomérations. C'est un petit peu une généralité, mais qui se vérifie. Toulouse et Montpellier, par exemple, font partie des exceptions dans lesquelles la proportion de radios associatives est très importante. Donc ça dénote une histoire de la radio associative très importante.
Ah oui.
En Occitanie, il y a eu historiquement un petit retard à l'allumage, notamment du service public local avec le réseau France Bleu, ce qui fait que cet attachement local et cette proximité, cette communication sociale de proximité a été très tôt remplie par les radios associatives et de façon beaucoup plus globale que dans d'autres régions.
Est-ce qu'il faut aussi, pardonnez-moi, y voir une explication? On est sur une terre historiquement entré à gauche, un côté militant aussi à travers ces radios assos.
Peut-être, ouais. Je me risquerais pas comme
non,
ça à des explications plus politiques, on va dire. Sans doute qu'il y a un petit peu de ça. En tout cas, j'ai pas d'éléments concrets qui permettent de le dire, mais c'est sans doute un élément d'explication. Et après, effectivement, cette emprise des langues régionales qui est importante. Il y a un certain nombre de radios associatives en langue régionale dans la région, que ce soit en catalan ou en occitan, évidemment. Voilà. D'ailleurs, on en parlera. La journée que vous aviez évoquée demain sera l'occasion de revenir sur cette question des langues régionales à la radio, qui est évidemment déterminante. Voilà. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de radios qui ne sont pas en elles-mêmes des radios en langue régionale, mais qui font la part belle dans telle ou telle émission à ces langues.
Alors, on fête un anniversaire avec vous, Antoine Tabar. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes le secrétaire général du comité territorial de l'audiovisuel, le CSA en région. On fête un anniversaire difficile de ne pas regarder dans le rétroviseur. Alors, outre 1921, l'année de création de la radio, si vous deviez retenir une date, quelle serait celle qui montre l'importance de la radio?
Alors, évidemment, la deuxième dont on fête l'anniversaire cette année, évidemment 1981, puisque je rappelle qu'on fête cette année, certes, les 100 ans de la radio, une vieille dame, comme on disait tout à l'heure. Pour autant, on fête aussi les 40 ans de ce qu'on a appelé les radios libres, la libération de la bande FM. Donc, c'est évidemment la seconde date primordiale. C'est l'occasion, voilà, de la fin du service public comme seule radio possible. Voilà, c'est l'avènement des radios associatives.
Difficile bataille, hein, cette fin du monopole d'État. Hein.
Tout à fait, mais difficile bataille qui a permis ce qu'est aujourd'hui le paysage. Hein. La place des radios associatives vient de là et il faut garder bien en tête cette date.
Cette date, donc, c'est évidemment 1981, 40 ans de radio libre, qui est également l'autre anniversaire que l'on fête. Alors, on va difficile d'évoquer la radio et son histoire, Antoine Tabar, sans passer cet extrait.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
Vous aurez évidemment reconnu le général de Gaulle qui lance son appel à la résistance sur la BBC depuis Londres. C'est aussi une façon pour la radio à ce moment-là, hein, de rentrer dans l'histoire.
Ah, mais la radio a de toute façon accompagné toutes les plus grandes dates de l'histoire, celle-là évidemment, mais à tout moment de l'histoire de France, en tout cas récente, il y a eu, la radio a toujours été un élément déterminant, au moins de transmission de l'information et de l'existence des événements.
68 notamment. Hein.
Évidemment.
Alors on parle de la radio, il y a une constante, hein, dans tous ces mouvements, ces évolutions, ces dates, repères et historiques, il y a une constante, Antoine Tabar, c'est celle-ci, c'est le média chouchou, la radio, hein.
Oui, tout à fait.
40,1 millions d'auditeurs l'ont écouté chaque jour entre janvier et mars 2021, selon Médiamétrie. Comment est-ce que vous expliquez cette place de choix dans le cœur des Français ?
Parce que je crois que c'est un média qui, en même temps d'être extrêmement simple, dans le sens où par rapport à la télévision, il se passe d'images, il se fait dans des conditions beaucoup plus faciles. D'une certaine manière, il suffit d'une voix, d'un micro. Il a démontré une très grande souplesse et une très grande adaptativité aux époques qu'il a traversées. Donc ça en fait sans doute un atout. C'est aussi traditionnellement le média qu'on appelle le média du cœur. C'est cette voix qui résonne, à laquelle on s'identifie. scientifique, qui est souvent l'objet d'ailleurs de beaucoup d'imagination. Avant que la radio commence à être filmée, on imaginait l'animateur sans jamais
c'est
le...
C'est dommage
sans
d'ailleurs jamais... parfois. Hein,
d'une certaine manière, c'est dommage, tout à fait. Ouais. Voilà, donc ça je crois aussi. Et puis c'est ce média qui nous accompagne. On a besoin d'extrêmement peu de choses là aussi pour l'entendre. C'est ce média qui nous accompagne dans tous les moments de la vie, le matin au petit déjeuner, dans la voiture pour partir travailler, le soir. Voilà.
C'est un plaisir solitaire aussi, la radio. Hein. C'est pas, on se met pas tous autour d'un poste pour écouter la radio. Hein.
Sauf rares exceptions, effectivement, c'est plutôt un média qu'on écoute, voilà, où chacun a son coup de cœur. Et d'ailleurs, cette semaine de la fête de la radio a amené beaucoup de personnalités à faire part sur les réseaux sociaux, notamment de leur coup de cœur radio. Et chacun a sa petite Madeleine de Proust.
Exactement.
sur ce média-là. Et comme vous dites, c'est un média à la fois solitaire, mais aussi qu'on partage énormément, où tout le monde, vous le disiez, 40 millions d'auditeurs. C'est évidemment loin d'être un média solitaire de ce point de vue-là.
Alors évidemment, tout le monde a sa petite Madeleine, vous disiez. Les plus anciens qui nous écoutent penseront probablement à Salut les copains, notamment, qui a bercé, en tout cas d'un point de vue musical, l'enfance et la jeunesse des uns et des autres. Alors tout le monde écoute la radio, je pense, hein, si on en juge par ce chiffre, hein, 40 millions d'auditeurs chaque jour. Quand on connaît la population au total, ça fait du monde. D'autant qu'il y a maintenant de nombreuses façons d'écouter la radio. Je pense que si on faisait un sondage, peu d'entre nous avons un poste de radio, Antoine Tabar.
Alors c'est encore majoritaire si on englobe là-dedans l'autoradio, parce qu'évidemment c'est dans la voiture que la radio est le plus écoutée, et le poste habituel d'écoute de la radio demeure le moyen principal aujourd'hui encore d'écoute.
Ah oui.
Alors effectivement c'est une tendance plutôt à la hausse pour ces nouvelles manières d'écouter. On peut penser voilà à l'écoute sur internet, sur les applications, sur son smartphone notamment, et tous ces moyens là. Et là encore on en revient à cette adaptivité de la radio. C'est un média où on peut l'écouter sur beaucoup de supports différents et qui nous accompagne absolument partout. Donc oui, il y a cette tendance-là à laquelle la radio s'habitue, à laquelle la radio s'adapte. Et effectivement, peut-être que demain, on n'écoutera plus du tout sa radio sur un poste fixe. Mais je crois quand même que le transistor a encore de beaux jours devant lui.
Ah bah, tant mieux. Il y a aussi le podcast, hein, qui a fait son entrée. Ça, c'est la façon d'écouter la radio, non pas en direct à chaud, mais plus calmement pendant leur passage, par exemple.
Oui, par exemple. Chacun écoute la radio au moment où il le souhaite. Oui, le podcast, c'est une nouvelle forme de radio. Est-ce que d'ailleurs c'est encore complètement de la radio ? La question se pose. Certains considèrent que la radio, c'est uniquement cette écoute linéaire en direct. Voilà, mais ce sont en tout cas des programmes de radio que l'on écoute au moment où on le souhaite. Parfois d'ailleurs des podcasts qui sont créés simplement pour le podcast, ce qu'on appelle des podcasts natifs, qui ne sont pas simplement la réécoute de programmes qu'on a pu entendre, la matinale qu'on a ratée, qu'on réécoute parce que voilà, telle émission, mais ce sont des programmes conscients en eux-mêmes. Ça fait la richesse de la radio, effectivement.
Des contenus créés from scratch, ex nihilo pour les latinistes. Antoine Tabar, il y a, en plus de ces nouvelles habitudes, de ces nouveaux usages de la radio, il y a aussi une petite nouveauté qui nous guette, qui est déjà arrivée ici à Toulouse. Ces trois lettres qui peuvent parfois être menaçantes, c'est le DAB, le DAB. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est au fait ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, comme vous dites, ça peut paraître menaçant, parce
mais
que
oui.
comme tout acronyme, comme CSA d'ailleurs, tout acronyme peut paraître menaçant. Alors, le DAB, c'est le Digital Audio Broadcasting, auquel on rajoute habituellement le plus derrière pour parler de DAB+. C'est simplement un acronyme pour parler de radio numérique. Donc, c'est en réalité un petit peu ce qu'est la TNT à la télévision.
Pour faire la
comparaison, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que on a constaté que les fréquences sur lesquelles émettent les radios étaient de plus en plus occupés, qu'il n'y avait plus du tout de place ou quasiment plus du tout de place pour des nouvelles radios.
Ah, c'est pour répondre à un besoin de place.
C'est notamment pour répondre à un besoin de place, puisque, voilà, on pourra y revenir, mais le DAB ne signe pas l'arrêt de la FM, il est un complément à la FM. Donc c'est une manière en réalité pour l'auditeur, de façon assez neutre, d'écouter à nouveau des programmes, mais qui viendront s'occuper une autre bande de fréquences et qui donc peuvent s'ajouter à la FM avec une qualité numérique, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur cette analogie qui grésille parfois, ce qui fait pour certains le charme charme de la radio.
Oui.
Mais en tout cas, voilà, c'est une qualité numérique, c'est une qualité, ce sont des nouvelles radios et c'est éventuellement des suppléments possibles aussi pour l'auditeur, c'est-à-dire des visuels sur un poste adapté, sur le petit écran que peut avoir la radio, par exemple, où on peut avoir une pochette d'album, le nom d'un artiste, ce genre de choses.
Et puis, ça veut dire, me semble-t-il, vous me dites si je me trompe, que partout, dorénavant, on pourrait écouter Radio Présence et pas uniquement en Occitanie.
Alors, tout dépendra des autorisations qu'aura Radio Présence, parce que le système fondamental de l'autorisation d'une radio sur une zone demeure. C'est-à-dire qu'on continue à sélectionner des radios qui vont avoir le droit d'émettre sur une zone qu'on aura mise à l'appel, comme on dit dans notre jargon. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément une réception nationale pour toutes les radios. Il y a effectivement les grandes radios nationales ont été autorisées et démarreront sans doute à la rentrée prochaine sur le territoire national, sur une plaque dite nationale. Elles pourront être reçues partout. Pour les radios locales, on a lancé des appels à candidature. Toulouse, par exemple, et Radio Présence sera reçue sur le lotissement de Toulouse, la zone de Toulouse, comme on l'appelle.
Et vous nous dites, ça signe pas forcément la fin de la présence. Il n'est pas nécessaire tout de suite de changer de voiture.
Pas du tout, pas du tout. Il n'est pas nécessaire de changer de voiture.
L'AFM
continuera autant qu'il le faudra et autant qu'elle le souhaitera d'une certaine manière. Si à un moment donné, le DAB doit effectivement remplacer complètement l'AFM, ça sera parce que les auditeurs auront intégralement migré vers le DAB et que les radios elles-mêmes décideront d'arrêter l'AFM. Il n'y a pas d'obligation, ce sont des bandes technologiques différentes, on va dire, donc l'une ne remplace pas l'autre, à la différence de ce qui a été fait pour la TNT, où pour avoir la TNT, il fallait arrêter la télévision analogique.
Alors, on ne peut pas fêter la radio, Antoine Tabar, sans fêter les auditeurs. Ils sont nombreux ici à Radio Présence, pas depuis 100 ans, mais au moins bientôt depuis 40 ans. Parmi eux, je voudrais évidemment tous les embrasser, c'est pour eux, c'est grâce à eux que la radio existe. Je voudrais particulièrement embrasser Julien qui nous a envoyé ces quelques mots qui nous font chaud au cœur. Il venait juste de faire un don à Radio Présence puisque c'est comme ça que nous vivons. Je passe par ici pour vous exprimer très simplement mes plus profonds et sincères remerciements pour votre soutien sans faille ainsi que pour les nombreux enseignements de vos intervenants qui m'ont permis de tenir durant ce qui aura été pour moi de longs et difficiles mois. C'était de mai à décembre 2020 où j'ai dû vivre une situation aussi inconfortable qu'injuste. Chaque jour, chaque soir, chaque week-end, dans mon malheur, j'avais au moins la certitude que je pouvais compter à tout moment sur vous et vos programmes pour me donner amour et compréhension au milieu des ténèbres et de la bêtise qui m'entouraient. Pour cela, mesdames et messieurs, je vous dis à nouveau merci. Je vous dis merci à vous aussi, Julien. C'est pour vous que nous sommes là. Merci à tous. Merci à vous, Antoine Tabar, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du comité territorial de l'audiovisuel. Bonne fête de la radio.
Merci, bonne fête.